بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح اللهم شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. شفري دان لافوا. Après les troubles qui ont secoué la communauté musulmane du royaume Bamoun et la communauté musulmane en général, nous nous sommes dit qu'il était important qu'il y ait ce genre d'assises afin qu'on puisse clarifier certaines réalités et rappeler les musulmans de certains principes de la voie des pieux prédécesseurs qui sont de nos jours combattus par des personnes qui ont été influencées par les adeptes de l'innovation. Et nous avons choisi comme module quelques récit de nos pieux prédécesseurs rapporté par l'imam Ibn Battah rahimahullah dans son célèbre livre appelé Al-Ibanatul Kubra, livre dans lequel il parle du dogme des gens de la sunna et du consensus et rappelle certains principes de la voie des pieux prédécesseurs, et ce, avec des chaînes de transmission allant de lui jusqu'à ses pieux prédécesseurs. Parce que Imam Ibn Battah rahimahullah, comme nous allons l'étudier, est mort en 387 de l'Hégire. Donc c'est un ancien qui fait partie des pieux prédécesseurs. Car nous savons tous que quand on parle des pieux prédécesseurs, on fait allusion aux trois premières générations ainsi que ceux qui les ont suivis dans la bonté. Et Imam Ibn Battah fait partie de ces générations. D'où l'importance de cette série d'assises. Et nous disons qu'entre nous et ceux qui ont changé et les gens de l'innovation, il y a ces livres, les livres des pieux prédécesseurs, qui traitent ou alors qui nous exposent clairement le dogme des gens de la sunna et du consensus et les principes de leur voie. Pourquoi est-ce que je n'ai pas dit qu'entre nous et ces gens-là, il y a le Coran et la sunna? Parce que bon nombre d'entre eux disent se cramponner au Coran et à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais seule l'explication des pieux prédécesseurs tranche entre qui est véritablement suiveur du kitab et de la sunna et celui qui prétend suivre le Coran et la sunna. Ça veut dire que nous avons deux camps, deux catégories de musulmans. Ceux qui sont réellement cramponnés au kitab et à la sunna, et ce sont ceux-là qui ont canalisé leur compréhension des textes du Coran et de la sunna par la compréhension des pieux prédécesseurs. Nous avons cette première catégorie. Et la deuxième catégorie, c'est la catégorie de ceux qui prétendent suivre le Coran et de la sunna, alors qu'en réalité, ils ne suivent le Coran et la sunna qu'à travers leur passion. Parce qu'il y a une différence entre celui qui suit le Coran et la sunna et canalise sa compréhension par la compréhension des pieux prédécesseurs, et ceux qui suivent le Coran et la sunna en fonction de leur passion. Quelle est la différence entre les deux groupes? La première catégorie écoute le verset, lit le hadith et l'analyse selon la compréhension des pieux prédécesseurs, puis croit. Ça, c'est la première catégorie. C'est les gens de la sunna, ceux qui se cramponnent réellement au kitab et à la sunna. La deuxième catégorie, ce sont ceux qui prétendent, les gens de l'innovation. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une passion, ils croient à cette passion, et pour défendre cette passion, ils se lancent dans une fouille, dans le Coran et la Sunna, pour trouver ce qui peut soutenir de près ou de loin leur passion. Donc eux, ils croient avant de chercher les preuves. Et les gens de la Sunna ont les preuves et croient sur la base des preuves qu'ils canalisent par la compréhension des pieux prédécesseurs. Donc, c'est ça l'objectif de cette série d'assises. Et avant de commencer à lire les textes que nous avons choisis, du chapitre que nous avons choisi, il est important de rappeler qui est Ibn Battah, rahimahullah, l'auteur du livre que nous allons lire. Et comme vous avez pu le constater sur la couverture, ce n'est pas le livre en entier, mais c'est des textes que nous avons choisis. Parce qu'on ne pouvait pas étudier le livre en entier, et nous prions qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la possibilité d'étudier ce genre de livre, parce que je suis sûr que quand on va commencer, vous allez prendre goût, et vous allez observer ou alors constater la différence qui existe entre la science des pieux prédécesseurs et la science des Al-Khalaf. Donc, il est marqué ici, principe relatif aux causes menant à la sortie d'un individu de la Sunna vers la Bida, tiré du célèbre ouvrage connu sous le nom Al-Ibanatul Kubra. Donc, ces récits ont été tirés de ce livre qui est Al-Ibanatul Kubra. Et comme nous avons dit, avant de parler du dit récit, il est important qu'on parle brièvement de l'auteur. Et ce, parce que c'est un principe dans la voie des gens de la Sunna. Parce que les gens de la Sunna ne prennent pas la science de n'importe qui. Ils ne prennent la science que d'une personne qui islamiquement on se doit de prendre et d'accepter. Parce que islamiquement, on ne prend pas la science de n'importe qui. Ça fait partie des principes des gens de la Sunna. C'est pour ça que Imam Ibn Sirin, rahimahullah, dans l'introduction de Sahih Muslim, il dit comme Imam Muslim l'a rapporté de lui, إن هذا العلم دين فانظروا أمن تأخذون دينكم وفي رواية كان الناس لا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ منهم وينظر إلى أهل البدع فلا يلتفت إليهم. Dans ce récit, Imam Ibn Sirin, qui était un tabi'in, un élève des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dit: certes, cette science représente votre religion. Regardez donc de qui vous la prenez. Cela était devenu un principe chez les gens de la Sunna à l'époque. Les pieux prédécesseurs, ils ne prenaient la science, ils ne prenaient pas la science de n'importe qui. Et dans une autre version, il dit, à l'époque, c'est-à-dire, parce que quand il parle de l'époque, c'est l'époque des compagnons. Non? Il dit, à l'époque, les gens ne posaient pas de questions au sujet de la chaîne de transmission. Vous savez pourquoi? Qui étaient les transmetteurs à l'époque du prophète, à l'époque des compagnons? C'était les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce sont tous des personnes qui ont été accréditées par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont tous des véridiques. Donc il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Qala falamma waqa'atil fitna. Lorsque la communauté musulmane a été frappée par le trouble, que chacun a commencé à se prononcer dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala en fonction de ses passions, alors qu'est-ce que les pieux prédécesseurs se sont dit? Quelle est la base qu'ils ont établie pour éviter que cette religion soit entachée? Ils ont dit, Sammoulana rijalakum, précisez-nous qui sont vos hommes, qui sont les hommes des sciences. À partir de ce moment, il fallait connaître. Et il fallait qu'une personne soit une personne de science, qu'il soit connu pour avoir étudié, pour qu'on puisse accepter de lui. C'est pour ça que depuis la nuit du temps, les gens de la Sunna ont l'habitude, avant d'étudier un ouvrage, de rappeler la place de l'auteur, afin que ceux qui étudient se rassurent que cet auteur en réalité fait partie de qui on doit prendre. Allez, c'est kadhalik. Donc, c'est pour ça que nous devons de parler brièvement de cet auteur. Et pour parler de cet auteur, nous allons revenir à sa biographie qui a été écrite par l'un des biographes de l'islam connu qui est Imam Zahabi rahimahullah. Il dit dans son ouvrage intitulé Siyar al-A'lam al-Nubala, biographie de Kef al-A'lam. Non, donc il fait allusion aux savants. Non, les savants connus. Non, qui représentent des symboles. C'est ça le titre du livre. Il dit biographie des savants qui en réalité représentent des symboles. Non, des icônes de la connaissance, mashallah. Et dans ce livre, il a parlé de Imam Ibn Battah, l'auteur de ce livre. Écoutez ce qu'il dit. Qala huwa al-Imam al-Qudwa العابد الفقيح المحدث شيخ العراق أبو عبد الله عبيد الله ابن محمد ابن محمد ابن حمدان الأكبري الحنبلي ابن بطة مصنف كتاب الإبانة الكبرى مصنف كتاب الإبانة الكبرى إيدي سليمام القدوة سليمام الجيد quand on parle de Qudwa c'est quelqu'un qu'on peut suivre qui est un exemple. Et à l'époque, les anciens n'indiquaient quelqu'un ou alors ne qualifiaient une personne par ce qualificatif que lorsqu'il était connu pour son suivisme de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et son cramponnement à celui d'être un imam dans la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il faut automatiquement suivre le premier imam qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses pieux prédécesseurs. Donc, celui qui suit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme il se doit automatiquement devient un autre imam. C'est-à-dire un autre exemple qu'on peut suivre dans le suivisme du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc Imam Zahabi l'a qualifié comme étant l'imam Al-Qudwa, l'exemple Al-Abid Al-Faqih Al-Muhaddith, l'adorateur Al-Faqih, le savant Al-Muhaddith, le savant du hadith. Il est Abid, il est savant dans le domaine de fiqh, il est versé dans ce domaine. Muhaddith, il est un savant du hadith également. Parmi les leçons que nous pouvons tirer dans cette biographie, c'est que c'était un vrai savant au sens même du terme islamiquement. Parce que le savant islamiquement, c'est celui qui met en pratique ce qu'il a appris. Et dans la biographie de Imam Ibn Battah, Zahabi nous fait comprendre que c'était un savant, un exemple, un adorateur. Il était connu pour son adoration. Il est même dit qu'on ne l'avait jamais vu au marché. Et qu'on ne l'avait jamais vu sans qu'il ne soit en train de jeûner. On ne l'avait jamais aperçu en train de manger parce qu'il jeûnait tout le temps. Ça veut dire que le jeûne qu'il avait adopté, c'était le jeûne de Daoud. Parce que c'est le meilleur jeûne. Naam. Et on ne l'avait jamais vu dans le marché. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'étaient pas des gens comme nous. C'était des personnes qui vivaient pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qui n'avaient qu'un seul but. Accéder à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et échapper au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Or, le marché, comme le prophète sallam a dit, fait partie des endroits les plus détestés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abradul biladi ilallah. Aswaquha, les endroits les plus détestés par Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les marchés. Et c'est pour ça que le musulman se doit d'éviter le marché et de ne entrer au marché qu'en cas de besoin. Parce que c'est là où le mal se répand. C'est là où le mal se construit. C'est pour ça qu'il faut éviter ce genre d'endroit. Et à la kulli hal, c'était pour parler de la place de Imam Ibn Battah. Donc ça veut dire que c'était un savant qui avait joué entre la science et la mise en pratique. Il dit, Cheikh al-Irak, c'était le savant de l'Irak. Abu Abdillah, Ubaydillah ibn Muhammad ibn Hamdan, al-Akbari. Ça c'est son nom. Qala musannifu kitab al-ibanatul kubra. Il a dit c'est l'auteur du célèbre livre al-ibanatul kubra. Ça veut dire que ce livre avait pris de l'ampleur et était devenu une source chez les savants, si bien que pour faire l'éloge de son auteur, on le présentait comme étant celui qui avait rédigé ses livres. Non, c'est-à-dire que pour présenter aux gens qui étaient Ibn Battah, on disait que c'est lui l'auteur de Al-Ibanatul Kubra. Hein? Vous voyez, parce que ce livre, comme nous allons le découvrir, était devenu comme une base chez les gens de science. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse être de ceux qui profitent de la science de ses pieux prédécesseurs. Et Difi Thalafi Mujalladad, c'est un livre qui est contenu dans 3 tomes. Et Al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah a dit par rapport à lui: Kana amiran bil ma'rufi lam yablughu khabaru munkarin illa ghayyarahu. Il dit c'est un savant qui ordonnait le bien et interdisait le blâmable, si bien qu'on ne se rappelle pas qu'il lui est parvenu une information concernant un mal sans qu'il ne l'ait changé. C'est pour ça que j'ai dit, c'était ça les pieux prédécesseurs. C'est des gens qui vivaient pour ce pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala les a créés. C'est des gens qui donnaient le meilleur d'eux-mêmes pour préserver la qualification qu'Allah subhanahu wa ta'ala a attribuée à cette communauté. Quelle est cette qualification? Qala Allah ta'ala, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Limada ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Vous êtes la meilleure communauté qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait jaillir. Pourquoi? Vous ordonnez le bien et interdisez le blâmable. Vous avez compris pourquoi Imam Ibn Battah, il ordonnait le bien et on ne se rappelle pas qu'il lui est parvenu une information concernant un mal sans qu'il n'œuvre pour changer ce mal. Tout ça pour nous montrer la place de ce grand imam. Wa qala Abdul Wahid Ibn Ali Al-Akbari lam ara fi shuyukh al-hadith wa la fi ghayrihim ahsana hay'atan min Ibn Battah rahimahullah. Je n'ai pas vu parmi les savants du hadith ni les savants dans d'autres domaines quelqu'un qui était bien dans son apparence comme Imam Ibn Battah rahimahullah. Pourquoi il parle de l'apparence? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas donné la science de l'invisible. On ne peut se prononcer que sur ce qu'on voit apparemment, et tout ce qui est dit ici c'est ce que ces savants voyaient apparemment de Imam Ibn Battah rahimahullah. Donc il dit que de tous ceux qu'il a vus parmi les savants du hadith et des savants dans d'autres domaines, parce que le hadith n'est qu'un domaine parmi les domaines de la science islamique, il dit que de tous ceux qui l'ont vu parmi les savants du hadith ainsi que des savants de l'islam dans d'autres domaines, il n'a pas vu quelqu'un qui était bien dans son apparence, c'est-à-dire qui s'accordait au kitab et à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme Imam Ibn Battah rahimahullah. Donc ceci pour nous montrer la place de cet auteur et afin qu'on puisse imaginer ce qu'il a pu écrire dans ce célèbre livre. Et comme nous l'avons dit, il était important de le rappeler parce que cela fait partie de la méthodologie de gens de la sunna. Ils ne prennent que des personnes qui sont connues pour avoir étudié. Parmi les choses qui ont été dites sur ce grand imam, c'est Nash'atuhu ilmiyah, c'est-à-dire concernant sa biographie scientifique, si on peut le dire ainsi, son curriculum vitae. Qala Ibn Battah. Wa la idi Nash'a Ibn Battah fi hijri walidihi wa kana waliduhu muhibban lil ilm. Ibn Battah avait grandi dans la maison parentale et son père aimait la science. Fa'tana bihi waliduhu munzu sirarihi fa'ufadahu ila Baghdad wa huwa ghulam wa lam yunashiz al-ashira min umrihi. Son père s'est occupé de lui quand il était jeune. Vous voyez le rôle des parents dans l'éducation des enfants. C'est pour ça que nous ne devons pas éduquer l'éducation des autres enfants. C'est parce que son père avait pris soin de lui. Son père fut une cause parmi les causes de l'explosion en science de ce grand imam. Et on peut être comme ses parents qui ont éduqué les enfants et qui sont devenus des grands imams. Et partout dans le monde, les gens étudient ces livres. Les gens profitent de la science de ce grand imam et son père à sa cote part de récompense parce qu'il avait pris soin de son fils. Donc, son père avait pris soin de lui quand il était jeune et l'a orienté vers la recherche de la science si bien qu'il l'avait envoyé à Bagdad rechercher la science alors qu'il n'avait même pas encore atteint l'âge de 10 ans. C'est ça, c'est comme ça qu'on prend soin des enfants, qu'on s'occupe de ses enfants, qu'on oriente ses enfants vers la voie du bien. ثم إن ابن بطة سافر إلى أمصار كثيرة ليأخذ العلم عن علماء أصره. Ensuite, Ibn Battah lui-même, après être devenu adulte ou alors majeur, lui-même a voyagé dans beaucoup de pays, dans beaucoup de villes, et il est allé à la recherche de la science parce qu'il avait été éduqué comme ça. Son père avait nourri en lui l'amour de la recherche de la science. Et c'est pour ça que lorsqu'il fut adulte, il a emprunté le chemin de la recherche de la science et il a fait des grands, des longs voyages pour cela. Il a été dans beaucoup de pays. Fasafara ila al-Basra, il a été à Basra. Wa Sham, il a été en Syrie. Wa Makkah, wa ghayriha, il a été à la Mecque et dans beaucoup d'autres pays. Qu'est-ce qu'on retient de cette biographie? C'est que chez les gens de la Sunna, on ne prend la science que des personnes qui sont connues. Quand une personne étudie, ça ne se cache pas. On sait quand il est en train d'étudier. On sait quand il a voyagé pour étudier. La science, ce n'est pas la magie. On ne peut pas être stable, tranquille dans son coin, faire le commerce comme tous les commerçants et du jour au lendemain devenir un savant. Il faut à tout prix. On n'arrive jamais à un succès sans peine ni sacrifice. C'est une loi réelle de la vie. C'est un principe établi. On ne peut pas accéder à la science sans se sacrifier, sans emprunter le chemin de la recherche de la science. Et le problème, ce n'est pas le fait que nous ne sortions pas tous pour aller étudier. Mais le problème, c'est que nous délaissons ceux qui sont allés étudier pour écouter, ceux qui ne sont pas connus pour avoir étudié. C'est ça qui fait problème. Islamiquement, le problème, c'est pas que les gens ne sont pas tous allés étudier, parce que les gens ne peuvent pas aller tous étudier. قال الله تعالى وما كان للمؤمنين لينفروا كافة لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون فما هو دورهم لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون الذي كنا باتين با اوكوان دي توس سوتي سي الله كي لو دي اون بي با توس سوتي مي سولومون سي ان غوب دي بيرسون. Sortez, allez à la quête du savoir, puis revenez vers le peuple les avertir, afin que ces gens-là se préservent. C'est ça leur rôle. Ceux qui sont sortis, c'est ça leur rôle. Donc le problème, c'est les musulmans. C'est ceux qui écoutent, ceux qui ne sont pas connus pour avoir étudié. Et ce n'est pas quelque chose qui a commencé aujourd'hui. Depuis la nuit du temps, ces fléaux avaient déjà frappé la communauté musulmane et les pieux prédécesseurs pour éviter les dégâts qui peuvent en découler d'un tel dérapage, nous ont enseigné des principes nous permettant d'éviter ce genre de personnes. Parmi ces principes, c'est ce qu'on peut retenir de la parole de l'imam Shaabi rahimahullah wa huwa min sadati tabi'in, fait partie des grands tabi'in, les élèves des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qala ما أتاكم عن الله ورسوله وأصحابه فضعه على رأسك وعينك وما أتاك من هؤلاء الصعافقة فاضرب به أكفيتهم. Il dit, ce qui vous parvient d'Allah et de son prophète et des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors acceptez-le. Acceptez-le. Ce qui vous parvient d'Allah, du prophète et des compagnons du prophète, vous devez de les accepter. Mais comment vous allez faire pour savoir que ça vient d'Allah? Ça vient de son prophète. Ça vient des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est quand vous allez respecter la voie tracée par Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre. C'est quand vous allez demander aux hommes des sciences, ceux-là qui sont connus pour avoir étudié. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Interrogez les hommes de science si vous ne savez pas. Ce ne sont que les hommes de science, ceux qui sont connus pour avoir étudié, qui doivent être interrogés en islam. C'est ça la voie tracée par Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est celle suivie par les pieux prédécesseurs. Il dit, ce qui vous vient d'Allah, de son prophète et de ses compagnons, alors mettez-le là, sur la tête et aux yeux. C'est-à-dire, prenez, acceptez-le. وَمَا جَاءَكُمْ أَنْ هَاُولَاءِ السَّعَافِقَ. Quant à ce qui vous parvient de ces sa'afiqa. Savez-vous qui sont les sa'afiqa? Cheikh Abdurazak ibn Abdelmohsen al-Badr hafidhahullah, en expliquant ce récit, il a dit: الصعافقة الذين يدخلون السوق بلا رأس مال فإذا اشترى التجار شيئا دخلوا معهم أراد بأن هؤلاء بمنزلة التجار الذين ليس لهم رأس مال. Il dit, الصعافقة, c'est un groupe de personnes qui se retrouvent au marché mais qui n'ont pas de capital. Et lorsque les vrais commerçants qui ont le capital arrivent au marché et se lancent dans le marché, ils entrent avec eux dans le marché. Ce sont ces personnes-là qui gardent le marché. Parce qu'ils n'ont pas de capital. Ils vont aller acheter quelque chose à crédit parce qu'ils n'ont pas l'argent. Et parfois, parce qu'ils achètent à crédit, ils vont être obligés de le prendre à un prix élevé. Et pour aller revendre, comme ils doivent rembourser la dette et avoir le bénéfice, ils vont hausser les prix. Vous voyez comment ils gardent le marché. Ce sont eux qui élèvent le prix au marché, et ce sont ceux qui gâtent le marché. Ça, ce sont des Sa'afiqa. Al-Sha'bi, il a qualifié un certain groupe de personnes qui existent dans le rang des gens de science comme des Sa'afiqa. Ils sont exactement comme les autres. Ce sont des personnes qui ne sont pas allées étudier, qui ne veulent pas aller étudier, mais qui prennent le devant de la scène, qui veulent faire la da'wa et délivrer les fatawa eux aussi. Alors qu'ils ne sont pas connus pour avoir étudier. Qu'est-ce qui peut bien en découler des actes de ces derniers? Pour comprendre, il faut revenir au récit de Imam Malik qui rapporte d'un de ses enseignants, Anna Rabi'at ibn Abi Abdirrahman dakhala ala rajul fawajatahu yabki fasa'alahu farta'a li bukaihi faqala adakhalat bika musiba qala la ولكن استفتي من لا علم له فظهر في الإسلام أمر عظيم إن أكثر من يفتي ها هنا وها هناك أحق بالسجن من السراق الله أكبر. Il dit, Imam Rabi'a ibn Abi Abdirrahman, qui était l'un des enseignants de Imam Malik, il dit qu'un homme était rentré chez lui. Il l'a trouvé en train de pleurer. Il lui a demandé, qu'est-ce qui t'a fait pleurer? Ses pleurs se sont augmentés. Il lui a dit, Adakhalat bika musiba, une calamité t'a-t-elle frappé? Il a dit non. Ce n'est pas la calamité auquel tu fais allusion. Parce que ici, il faisait allusion à la mort. As-tu perdu l'un de tes membres proches, l'un de tes bien-aimés? Il a dit non. Voilà, mais le problème, c'est qu'il me fait pleurer en chaud de larmes. Istuftiya man la ilma lahu. On a interrogé quelqu'un qui n'a pas de science en islam. C'est la chose qui l'a fait pleurer. Istufti amallah il malahu. On a interrogé quelqu'un qui n'a pas de science en islam, qui n'est pas connu pour avoir étudié. C'était quoi la conséquence? Car là, fadhahara fil islami amrun azim. Quelque chose d'étrange s'est produit en islam. Quelque chose d'étrange s'est produit en islam. Parce que ce ne sont pas des personnes qui ont bâti leur fatawa, leurs agissements, leurs propos sur la science. Et lorsque ces derniers se prononcent, alors quelque chose d'étrange doit se produire en islam. Ensuite, il a dit, Inna akthar man yufti hauna wa haunak ahakku bis sijni min as-surraq. La grande majorité de ceux qui délivrent les fatawa là dehors, par-ci par-là, méritent la prison que les voleurs. Ils méritent la prison que les voleurs. Vous savez pourquoi? Parce que la pire des choses qu'un voleur puisse te faire, c'est te tuer. Quand un voleur entre chez toi, ce qu'il veut, c'est ton argent et tes biens. Et la pire des choses qu'il puisse te faire, c'est se tuer. Alors que la pire des choses qui puisse arriver à un homme, ce n'est pas la mort, mais c'est l'égarement. La pire des choses qui puisse arriver à un homme, ce n'est pas la mort, mais c'est l'égarement. Or, celui qui parle en religion sans science, il peut te voler ta croyance. Il peut t'entraîner dans l'égarement. Vous voyez comment il est plus dangereux que le bandit? Parce que le rangi ne porte atteinte qu'à tes biens et dans le pire des cas à ta propre personne. Quant à celui qui parle en religion sans science, il porte atteinte à ton âme. Il porte atteinte à ton âme. Alors qu'on ne humera l'odeur du paradis que si on revient vers Allah subhanahu wa ta'ala avec une âme purifiée. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant de l'âme dans le Coran, il a juré 11 fois. Pourtant, il n'a pas parlé comme ça des biens de ce bas monde. Mais en parlant de l'âme, Allah subhanahu wa ta'ala a juré 11 fois pour nous montrer l'importance de la purification de l'âme. Qala Allah ta'ala, وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَهَاهَا وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Comptez bien, ça fait 11 fois Allah jure, sans rien dire, Allah jure pour nous montrer l'importance de la chose qui vient après. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut jurer comme il veut. Mais ce que nous devons retenir, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne jure que pour nous montrer l'importance de la chose, pourquoi il a juré. Or, le simple fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pour le croyant, le simple fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle d'une chose montre l'importance de cette chose. Qu'en est-il si Allah subhanahu wa ta'ala jure? Qu'en devient-il quand Allah subhanahu wa ta'ala jure une fois, deux fois, trois fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois, 11 fois. Pour dire qu'ad aflaha man zakaha. Certes, aura réussi celui qui purifie son âme. Wa qad khaba man dassaha. Et malheur à celui qui la corrompt. Donc, celui qui corrompt l'âme des croyants, qui les entraîne dans l'égarement, est plus dangereux que celui qui leur vole leur bien. C'est pour ça que dans des états islamiques où la charia est encore appliquée, comme l'Arabie Saoudite, contrairement à ce que disent les médias, et parce que les musulmans doivent être éveillés, sachez que ces médias ne sont pas là pour vous informer, chers frères. وَلَنْ تَرْضَى أَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِئَ مِلَّتَهُمْ إِلَمُ هَذَا. Les juifs et les chrétiens n'agueront de vous jusqu'à ce que vous les suivez. Beaucoup de musulmans aujourd'hui, parce qu'ils se sont fait avoir par les médias, combattent l'Arabie Saoudite, le seul pays de la tawhid où l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala est proclamée officiellement, où le drapeau porte la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, où aucune idole n'est adorée, où aucune tombe n'est adorée, où aucune innovation n'est visible. Ça ne vous suffit pas comme mérite? Si l'Arabie Saoudite n'avait que ses bienfaits, n'est-il pas suffisant comme bienfait afin qu'on soutienne l'Arabie Saoudite face à tous ceux qui combattent l'Arabie Saoudite? C'était une parenthèse pour rappeler aux musulmans que les médias ne sont pas là pour vous informer. Ils sont là pour orienter l'opinion. Et le musulman doit être intelligent. À la kulli hal, nous revenons, c'était pour dire que dans des pays où la charia est appliquée comme l'Arabie Saoudite, quand il est établi qu'un prédicateur appelle vers l'égarement, on le met en prison. Parce qu'il est plus dangereux que le bandit. Sa peine peut même être plus dure que celui du bandit. Parce que la préservation de la foi, de l'âme, des croyants, est quelque chose de très grand en islam. C'était, en quelque sorte, chers frères, vous présenter la gravité du suivisme de ces personnes qui, en réalité, ne sont pas des savants et ne sont pas connus pour avoir étudié et qui se prononcent dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Imam Ash-Shabi rahimahullah dit, quant à ce qui vous parvient de ce qui vous vient, yani, quant à ce qui vous parvient par le biais de ces sa'afiqa, alors rejetez-les. Ceux qui ne sont pas connus pour avoir étudié, ce sont des sa'afiqa, ce sont des personnes qui se sont infiltrées dans les rangs des étudiants en sciences et des savants qui ont pris le devant de la scène dans la da'wah, alors qu'en réalité ils ne sont pas connus pour avoir étudié Et j'ai toujours dit, chers frères, que nous ne devons pas nous laisser avoir par ces personnes. Wallahi, thumma wallahi, quand quelqu'un veut le bien pour la communauté du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, quand quelqu'un a l'intention de changer, d'améliorer la communauté, d'établir la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, il emprunte le chemin de la recherche et de la science. Et endure sur ce chemin. Et c'est pour ça que, en réalité, c'est un chemin extraordinaire. Vous savez pourquoi? Parce que quand on n'emprunte pas ce chemin avec une intention sincère, on ne résiste pas. Parce qu'il y a beaucoup d'obstacles. Et parce que le diable se met sur le chemin de celui qui recherche la science parce qu'il sait ce qu'il pourra devenir demain. C'est pour ça qu'il fait tout pour descendre les étudiants en science. C'est pour ça que le diable, parce qu'il sait qui sont ses vrais ennemis, qui sont ceux qui peuvent contribuer à l'établissement de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui peuvent faire la da'wa réelle, celle qui avait été prêchée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qala Allah ta'ala, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي عَدُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعْنِي. Dis, voici ma voix, j'appelle vers Allah ainsi que ceux qui me suivent, me basant sur la clairvoyance. Il faut à tout prix cette clairvoyance. Et cette clairvoyance, elle ne vient pas du ciel. Je veux dire qu'on ne se réveille pas un matin ayant reçu cette clairvoyance. Parce que s'il en était ainsi, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas reçu la révélation par le biais d'un ange qui l'enseignait. Il se serait réveillé un matin étant plein de révélations. Il allait commencer à transmettre cette révélation. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous faire comprendre l'importance de la chaîne de transmission dans l'acquisition de l'islam, il a choisi pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam un enseignant qui lui a enseigné. Qala Allah ta'ala, allamahu shadidul quwa. Celui qui l'a enseigné était fort dans son domaine. Jibril alayhi salam, donc c'était l'enseignant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quel est le premier verset du Coran qui fut révélé? Iqra. Iqra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même est passé par Iqra. Lis. C'est lui qui dit à quelqu'un lire son enseignant et c'est lui qui lit et son élève. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous faire comprendre, comme je vous ai dit, l'importance de la chaîne de transmission, lui-même nous a parlé de Jibril. Il nous a présenté l'enseignant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et nous a parlé de ses attributs pour qu'on sache qu'on ne doit pas accepter de n'importe qui. Qala nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Nazala bihi ruhul amin. C'est une âme digne de confiance qui est descendue avec la révélation. Dans cette science, on ne l'apprend que des personnes dignes de confiance qui sont connues pour avoir étudié. C'est ça la réalité. Et les musulmans ont atteint ce degré, sont plongés dans ce fléau parce que nous avons délaissé ces principes. La vérification des sources, de ceux de qui nous prenons. Le fait de se rassurer que celui qui parle, que celui qui a pris le devant de la scène, fait partie de ceux qui se doivent de se prononcer en islam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc, Imam Shabi, rahimahullah, nous a mis en garde contre ces sa'afiqa. Thumma qala Sheikh Abdul Razak, wa ha'ulai, mitlu ha'ulak, li'annahum yudkhiluna anfusahum fi umuri d-din al-idham. Il dit que ces personnes qui ne sont pas connues pour avoir étudié, qui ont infiltré le rang des étudiants et des savants, sont comparables aux sa'afika qui entrent dans le marché et infiltrent le rang des commerçants alors qu'ils n'ont pas de capital. Alors qu'ils n'ont rien appris des textes de la charia. Ils n'ont rien appris. Les textes de la charia ne se reçoivent pas dans le songe. On les apprend, on les étudie au pied de ceux qui sont connus pour avoir étudié. Ainsi de suite. L'islam, c'est une chaîne de transmission. Et ce sont des gens qui n'ont pas de compréhension de la religion, qui n'ont pas le fiqh, l'analyse scientifique. Mais cependant, tu les vois s'introduire ou alors se prononcer dans des questions qui en réalité ce ne sont que des grands et imams qui se doivent de se prononcer dans ces questions. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et pour nous citer un exemple, à l'époque, ça fait plus de 7 ans, je suis allé voir un savant de Médine, Cheikh Saleh Souhaim. Quand le problème avec l'école occidentale avait commencé, ça c'est ancien, je suis allé voir le Cheikh. Parce que moi, je faisais partie de ceux qui étaient catégoriques. Peut-être beaucoup de personnes ne connaissent pas. Je faisais partie de ceux qui étaient catégoriques qu'on ne doit pas envoyer les enfants. Mes frères peuvent témoigner. J'avais souvent ces discussions avec mon père. Qu'on ne doit pas envoyer les enfants à l'école occidentale. Quand je suis rentré, je suis allé voir Cheikh Saleh Souhaimi. Pour moi, c'était une question aussi simple que ça. L'école de Koufar. Comment est-ce qu'on doit envoyer les enfants à l'école de Koufa? Et je vous rappelle que j'étais à l'Institut de langue aussi, il faut me comprendre. J'étais à l'Institut de langue. Donc c'était l'agissement de quelqu'un de l'Institut de langue. Quand je suis allé voir le cheikh, quand je lui ai posé le problème et je lui ai exposé la situation du Cameroun, il a dit, Wallahi, je te conseille d'écrire au Mufti. Là, j'ai compris que je m'étais précipité. Parce que je suis allé exposer un problème, un sujet sur lequel je m'étais prononcé à un savant qui est connu, qui m'a demandé d'écrire au Mufti. Il a été clair. Écrire au Mufti. Alors j'ai compris que la question était plus grande que moi et que je m'étais précipité. Donc c'est pour citer un exemple des agissements de Sa'afika. Des questions qui, dont les conséquences peuvent toucher toute une nation. Ce n'est pas n'importe qui de se prononcer dans ce genre de questions. C'est des savants, c'est des étudiants en sciences, qui sont assis en sciences, qui maîtrisent les règles de la jurisprudence islamique, d'analyser le sujet, de prendre tout en considération, de travailler avec les principes de la charia, les principes de base, comme qa'idatun nadar fil ma'alat. Ça, c'est un principe dans la jurisprudence islamique. C'est-à-dire qa'idatun nadar fil ma'alat. La règle qui implique qu'on doit tenir compte des conséquences dans l'avenir. Ça, c'est une règle en charia qui peut influencer sur la sentence d'un sujet donné. Je ne sais pas si vous avez compris. L'analyse de la conséquence qui peut en découler d'une sentence délivrée peut influencer sur cette sentence. Si vous avez des doutes, méditez sur Sulh al-Hudaybiyah. Qu'est-ce qui s'était passé? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons sont sortis pour aller faire la Umrah. Al-Kaaba Baytullah. La Kaaba, c'est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'appartient pas aux mécréants, aux idolâtres. Le prophète et ses compagnons sont sortis pour aller faire la Umrah. En route, les mécréants ont appris qu'ils étaient en route en train de venir et ont décidé de les empêcher. Ils ont dit qu'ils ne pénétreront pas la Mecque. Quand ils sont arrivés, le prophète sallam, avant la Mecque, a envoyé Omar, Uthman radiallahu anhu, les avertis qui ne sont pas venus pour la guerre, qui ne sont venus qu'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et faire leur Umrah et rentrer. Quand ils sont arrivés, ils ont reçu Uthman, ils ont posé des conditions et finalement, il fallait qu'ils font un pacte. À l'époque, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec cette poignée, ou alors ce poignet de... cette poignée de compagnons était faible et ne pouvait pas faire le poids face aux mécréants. Et pour t'attaquer aux mécréants, il faut quand même s'apprêter. Il faut être prêt, se préparer. Ce n'est pas un jeu. La jihad, ce n'est pas un jeu. Il faut se préparer. Taïb. Ils ont décidé, le prophète sallam a décidé de fixer un pacte avec les mécréants. Parmi les clauses de ce pacte, déjà le pacte c'était l'injustice totale.
Ils ont dit au prophète sallam que bon, la première condition c'est que vous ne faites pas la Umra cette année. Est-ce qu'ils ont le droit d'empêcher quelqu'un de faire la Umra?
قال الله تعالى ومن أظلم ممن نعم تاجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين الآية
Allah dit, qui est plus injuste que celui qui empêche aux croyants d'invoquer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'une de ses maisons? Quelle est la maison la plus sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala?
La Kaaba. Les mécréants ont dit au prophète Mohammed sallam que notre première condition c'est que vous n'entrez pas à la Mecque cette année, vous ne faites pas la Umra. Le prophète a validé. Umar était abattu. Et vous connaissez Umar? Ah, il s'est encore calmé. Parmi les clauses, si quelqu'un s'islamise à la Mecque, il fuit, vient à Médine, tu le renvoies. Le prophète a validé. Omar n'était pas tranquille. Parmi les clauses, si quelqu'un apostasie et sort de Médine et vient à la Mecque, nous on le reçoit, on ne le renvoie pas. Le prophète a accepté. Vous savez ce que Omar a fait? Il est allé voir Abu Bakr radiallahu anhuma.
Nous ne sommes pas sur la vérité. Il a dit nous sommes sur la vérité. Lui ce n'est pas le prophète d'Allah. Lui c'est le prophète d'Allah. La Kaaba ce n'est pas la maison d'Allah.
Il dit s'il y a un jour où j'ai vraiment douté, c'est aujourd'hui. Il y a un jour où j'ai vraiment douté dans ma foi, c'est aujourd'hui. Abu Bakr l'a dit. Lui c'est le prophète d'Allah ou non? Il reçoit la révélation ou non? Ah, Omar est guéri. Non, Omar est guéri. Parmi les leçons que nous tirons ici, Abou Bakr était connu pour sa place, pour son fiqh. Quand des compagnons avaient des problèmes, il retournait vers ceux qui étaient connus pour avoir la science. Et chaque fois qu'on retourne vers ceux qui ont la science, on revient guéri. Et il y a un exemple que j'aime citer. Quand il y a eu des troubles en Algérie, pour ceux qui connaissent ce qu'il y a eu en Algérie avec le fils, ainsi de suite. Il y a un jeune. Et la vidéo existe encore à YouTube. J'aime bien cette vidéo. Et chaque fois, ça me fait pleurer. Parce que c'est ça qui montre que les musulmans aujourd'hui. Il a pris le téléphone. Il a appelé Cheikh Albani. Il a dit, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam. Il a dit, Ya Cheikh, indi soal, qal had. Il a dit, Ya Cheikh, إذا أعلن الجهاد في الجزائر فهل يجوز أن نجاهد؟ Il a dit, oh Cheikh, si on proclame la jihad, ou alors si on proclame le jihad en Algérie, est-ce qu'il nous est permis de combattre? Cheikh Albani lui a dit, من الذي سيعلن الجهاد القوي أم الضعيف؟ Il a dit, الضعيف. Il a dit, وهل الضعيف يستطيع أن يجاهد؟ قال لا قال الشيخ سامحك الله Le cheikh il a dit qui est celui qui va proclamer le jihad en Algérie, le fort ou le faible? Il a dit le faible. Le cheikh dit est-ce que le faible peut combattre sur le sentier d'Allah? Il a dit non. Le cheikh a dit qu'Allah vous excuse. Man istajala shay'a qabla awanihi uqiba bi hirmanihi. Lorsqu'une personne se précipite sans suivre les étapes prescrites par l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala finit par le châtier en l'empêchant d'atteindre ses objectifs. Ensuite, il y a dit "Ama atabartum bima waqa'a fi al-Sham wa qabla al-Sham al-Hijaz au Maqala." Il y a dit "N'avez-vous pas tiré des leçons pour ce qui s'est passé en Syrie et avant la Syrie, la péninsule arabique? Pourquoi ne réfléchissez-vous pas?" Et chaque fois le jeune disait, et tu sentais qu'il était tranquille et qu'il était guéri. Il disait, Sahih ya Cheikh, Sahih ya Cheikh. À chaque fois il disait, c'est vrai Cheikh, c'est vrai Cheikh. À la fin il a dit, c'est bon Cheikh, c'est bon. Cheikh lui a dit, Salam alaikum wa rahmatullah. Donc, imaginez ce jeune, s'il n'avait pas appelé Cheikh Albani, et regardez comment il a eu la paix quand il a consulté le savant sur le sujet. Mais imaginez-vous s'il avait appelé des personnes comme Ali Belhadj, Abbas Al-Madani, Abbas Al-Madani, qui n'étaient pas connus pour avoir étudié. C'était des politiciens.
Non, il allait l'envoyer au feu. C'est ça la différence entre le savant et le soufour. Et celui qui est connu pour n'avoir pas étudié. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la force de nous cramponner à ces principes. Donc, c'était pour parler brièvement de l'imam Ibn Battah. Et je ne m'attendais pas à ce que cette introduction prenne tout le temps. Madri Kamba Fiyadi Salah. L'Adhan. Nous avons encore du temps. Oui. Et bien, là, nous عند هذا الحد إن شاء الله نزالون بوسويفر دماء هذا والله على وعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين